Il y a les mots, et puis il y a le ton, la musique de la parole. Que raconte-t-elle, et comment faisons-nous pour la décrypter? Mon état intérieur que j'essaye de vous transmettre, vous l'entendez? Quand nous nous parlons, nous sous-titrons nos mots. Et là, je souris.
Ça s'entend. Ouais, ça, on peut connaître comme un sous-titrage émotionnel. Toutes ces productions vocales qu'on aimait, elles sont en fait sous la gouverne de deux grands systèmes, qui est ce qu'on appelle la source. C'est nos cordes vocales, au fond, notre tractus vocal qui sculpte par les vibrations l'air qu'on expire. Mais il y a aussi tout le phénomène de l'articulation. Donc ça va produire en fait ce qu'on appelle des résonances. Cette onde va se heurter à toute une série de tissus, en fait, et créer des résonances. Et c'est ces résonances qui sont modifiées, par exemple, par le fait qu'on sourit. Hein. Quand on sourit, quand on parle, ça s'entend parce que les résonances qu'on produit sont différentes que si je ne souris pas du tout.
Microsciences, un podcast de la RTS.
Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode où je m'intéresse aux émotions qui s'infiltrent dans nos voix, ce qu'elles nous communiquent et ce qu'elles racontent de notre cerveau. C'est Didier Grandjean qui sourit avec moi dans le micro et il est visiblement content d'être là. Et il est
professeur à la faculté de psychologie et des sciences d'éducation et au centre interfacultaire en sciences affectives.
Sa spécialité, vous l'aurez compris, ce sont les émotions et la voix et les émotions et la musique. Et justement, cette musique, elle transparaît quand on parle.
Donc cette musicalité dans la parole, ça s'identifie sous le terme prosodie. Et on parle de prosodie linguistique, donc qui va structurer par exemple des phrases en termes d'affirmation ou d'interrogation. Et la prosodie émotionnelle qui va impacter sur la manière de parler à travers justement tous les mécanismes émotionnels qui modifient notre voix.
Et c'est ainsi que je peux vous transmettre mon plaisir d'être là par ma voix souriante.
Oui, tout à fait, mais ce n'est pas volontairement forcément qu'on communique notre état intérieur. C'est-à-dire, il peut transparaître aux oreilles de notre interlocutrice ou interlocuteur sans qu'on veuille transmettre quelque chose. Là, quand je suis en train de vous parler, je suis en train de moduler ma voix, en partie de manière volontaire. Et puis, si j'étais stressé, triste, au contraire joyeux, eh bien, ça transparaîtrait dans ma voix à travers, quand on l'enregistre, différents paramètres acoustiques. On parle de fondamental, on parle d'énergie dans le temps. Et ça va être perçu par l'auditrice ou l'auditeur et utilisé pour inférer des états émotionnels chez autrui.
Les émotions que je vous livre quand je parle racontent quelque chose de moi. Mais elles vous racontent aussi quelque chose sur vous-même. Chaque mot que je prononce arrive à vos oreilles, mais où va-t-il?
Quand on parle, on sculpte l'air qu'on expulse de nos poumons. Ces éjections d'air de notre corps, eh bien, produisent des compressions d'air, en fait, qui viennent frapper notre tympan, qui est à l'intérieur de notre oreille. Ce tympan, il va faire vibrer trois petits osselets, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Et l'étrier, lui, est accolé à une petite fenêtre, qu'on appelle la fenêtre ovale, au fin fond de votre oreille, qui, elle-même, est connectée à ce qu'on appelle la cochlée. Et la cochlée, c'est un système en colimaçon, une structure en colimaçon, qui est remplie d'un liquide. Et ce liquide va être animé par ces vibrations de la fenêtre ovale. Et ça va créer, en fait, ce qu'on pourrait métaphoriquement appeler des vagues dans ce liquide. Et donc, au sein de cette cochlée, on a un organe qui s'appelle l'organe de Corti, qui est muni de cellules ciliées. Et ces cellules ciliées, comme des algues au fond de la mer, vont osciller, en fait, à l'aune de ces vagues. Et c'est cette oscillation de ces cellules ciliées qui va, à travers toute une chaîne métabolique complexe, qu'on appelle la transduction, passer d'un signal physique à un signal électrique. Et c'est ce premier signal neuronal qui va ensuite se projeter sur toute une série de structures cérébrales et qui va nous donner cette impression d'entendre.
En fait, quand on se parle et quand on s'écoute, on s'échange des vibrations. Et notre cerveau est particulièrement doué pour reconnaître la voix des humains et des humaines par rapport au bruit ambiant.
C'était montré que chez les primates non humains, ils ont exactement le même système, c'est-à-dire un système qui va traiter de manière préférentielle et dédier des ressources aux vocalisations des congénères et beaucoup moins, par exemple, à la voix humaine ou à l'émission vocale d'autres espèces. Donc c'est comme si on avait une spécialisation neuronale pour traiter de manière particulièrement efficace les sons de nos congénères.
Donc, la voix humaine arrive dans notre cerveau et les mots sont d'abord décryptés.
Le d'abord, je ne sais pas s'il est le plus pertinent parce qu'il n'y a pas franchement une hiérarchie de traitement. C'est-à-dire que ces sculptures de l'air, si vous voulez, vont en effet générer ce premier signal neuronal au sein de la cochlée et transférer dans ce qu'on appelle des structures sous-corticales, qui sont vraiment au centre de notre cerveau, qui vont ensuite être projetées sur un système qui s'appelle le thalamus, qui est aussi une structure très ancienne sur le plan phylogénétique. Donc de l'histoire des espèces au centre de notre cerveau, puis ce signal va être transféré vers notre cortex. Et c'est le fameux cortex auditif primaire, et c'est là que, comme sujet, on entend. C'est toute une chaîne neuronale préalable avant que vous ayez conscience d'entendre.
Mais toujours est-il que ces mots, ces vibrations, pénètrent au fond de notre cerveau.
L'hypothèse, c'est que ces structures sous-corticales, elles-mêmes, peuvent projeter sur d'autres structures, aussi très anciennes, sur le plan phylogénétique, comme les noyaux amygdaliens, qui vont induire déjà des réponses corporelles, avant même que vous ayez conscience d'entendre. Et donc, il y a un phénomène qui a été étudié, qui est cette possibilité que le système entende, en quelque sorte, avant même que vous-même, comme sujet pensant, vous entendiez quelque chose.
Mais oui, c'est ce qui permet de comprendre une émotion, même dans une langue étrangère.
On est très bon à détecter des émotions portées par la voix, même si on ne comprend pas tout le message sémantique qui est associé aux mots, aux phonèmes.
Mais ça, ce sont des généralités. Sommes-nous toutes et tous si bons à détecter les émotions ? Vous en connaissez peut-être, vous, des personnes qui ne réagissent pas à votre voix enjouée ou à la détresse qu'elles véhiculent.
Il y a des différences interindividuelles et il y a des personnes qui sont plus finement entraînées et câblées, il y a les deux dimensions, à apporter aussi de l'attention à cette dimension. Parce que très souvent, on est pris dans le discours par la sémantique, donc par la signification des mots. Mais on peut aussi porter notre attention de manière volontaire juste à la musicalité des mots en faisant un peu fi de la sémantique qui va nous renseigner plus fortement sur l'aspect émotionnel de notre interlocutrice ou interlocuteur.
Alors parfois, il faut peut-être en rajouter une couche. Mais est-ce que toutes les émotions peuvent être jouées par ma voix ?
Il y a un autre phénomène qui est celui qu'on nomme habituellement les onomatopées, donc les « ah, bah, enfin, toutes ces productions de bouffées affectives qui, elles, véhiculent très bien la plupart des émotions, particulièrement le dégoût, quand je fais « berk », on comprend bien que je ne suis pas enthousiaste à ce que je suis en train de manger. Mais dans la prosodie, vient par-dessus les mots, si vous voulez. Là, par exemple, le dégoût est très mal décodé. Si on a beaucoup de peine, vous pouvez essayer de le faire, de faire une voix dégoûtée en parlant.
J'essaye de faire une voix dégoûtée.
Eh bien, on est très mauvais. Et c'est très mal décodé. Par contre, la joie, la peur, la tristesse, la colère, la surprise, tous ces éléments-là, on est très bon à les décoder.
Ce double discours, mots et émotions, il est utile, à plein d'égards.
Ça permet en fait de se représenter l'état émotionnel d'autrui dans l'interaction sociale, c'est critique. Mais il y a aussi toute une fonction de, par exemple, détecter des menaces dans l'environnement. Si vous avez un cri, alors que votre attention est portée à quelque chose de précis, je ne sais pas, vous êtes en train de lire un livre et vous avez un cri dans votre salon. Votre ami ou votre amie s'est coupé au bout du doigt, par exemple. Notre système va être alerté qu'il y a quelque chose d'atypique qui se déroule ici et maintenant et qu'il faut y prêter attention et allouer des ressources pour pouvoir le traiter profondément et comprendre ce qui est en train de se passer.
Maintenant que je sais tout cela, je peux manipuler cette voix et feindre des émotions que je ne ressens pas.
C'est une question qui a évidemment généré beaucoup de recherches. C'est à quel point on est capable de contrôler nos expressions émotionnelles. Et c'est un mécanisme de régulation que de minimiser les éléments visibles ou audibles de l'émotionnalité. On est très bon à manipuler notre expression faciale parce qu'on est surentraîné en quelque sorte à avoir un masque social. Par contre, en règle générale, si on n'a pas travaillé sur sa voix comme les chanteuses ou les chanteurs ou les personnes qui travaillent à la radio, eh bien si on n'a pas travaillé sa voix, on est beaucoup moins bon à contrôler les émissions émotionnelles qui modulent la voix.
Nos émotions suintent parfois sans le vouloir dans notre voix. Une machine pourrait donc les détecter. Ou une intelligence artificielle.
Encore une.
Détectrice de mensonges.
Oui, le problème, on a eu plein de discussions avec des gens du droit par rapport à ça. Il faut définir ce qu'on entend par mensonge. Et ça, c'est un domaine très complexe. Hein. Les philosophes ont beaucoup écrit là-dessus. C'est-à-dire, parfois, on peut dire quelque chose qui est jugé comme un mensonge par autrui, alors qu'on est persuadé qu'on dit ce qu'on appelle la vérité. Oui, on est capable de détecter, en règle générale, lorsqu'on connaît surtout bien l'individu auquel on fait face, si, en tout cas, il y a un manque d'authenticité, ou il est en train, ou elle est en train de raconter des bobards, comme on pourrait dire. Mais les machines qui font ça sont très facilement falsifiables.
On essaye ? On fait comment ?
Il suffit de se mettre, par exemple, dans un état émotionnel particulier pour engendrer toute une série de signaux qui viennent troubler les signaux qui seraient pertinents pour détecter le mensonge, par exemple. Il y a eu plein de tentatives d'utiliser des détecteurs de mensonges, mais vous pouvez très facilement les leurrer en modifiant votre état émotionnel intentionnellement. Ben, les acteurs sont excellents à faire ça, et on est bluffé dans les films à ne pas douter de l'authenticité de Leonardo DiCaprio dans Titanic.
C'est vrai. Leonardo, enfin Jack, vibre de tout son corps d'amour pour Kate, enfin Rose.
En fait, quand on parle, quand on vocalise, on vibre. Si vous mettez votre main sur votre thorax quand vous parlez, là, vous prenez bien conscience qu'il y a toute une vibration. Et il y a toute une série de recherches qu'on mène actuellement ici à l'Université de Genève pour essayer de comprendre quel est le rôle de ces vibrations corporelles lorsque je vocalise pour que je puisse mieux saisir ce qui m'arrive ici et maintenant en termes émotionnels.
Donc, est-ce que ma vibration actuelle m'indique un état émotionnel particulier ? Eh bien, pour le savoir, il faut tester.
Voilà, bah c'est ce qu'on fait. Donc, on met des petits transduceurs. Donc, ce sont des petits haut-parleurs qu'on met sur la gorge, pour l'instant, des participantes et des participants. Et on leur fait écouter différentes émotions vocales. Alors, en l'occurrence, on a utilisé des « ah, ah, ah ». Et on regarde comment, lorsque la vibration correspond, par exemple, à de la colère, ou à de la peur, ou à de la joie, comment ça va modifier la perception auditive que j'ai d'un même stimulus. Et ce qu'a montré, c'est une thèse qui est portée par Mme Garance Sellos, ce qu'elle a pu montrer, c'est que, oui, on est biaisé, c'est-à-dire si on fait vibrer la personne, par exemple, à un niveau de colère, au niveau du tract vocal, eh bien, la personne va avoir tendance à entendre plus de colère dans ce qu'on lui présente de manière auditive, même si elle ne prend pas conscience qu'elle a vibré à une autre fréquence.
Alors, lorsque vous parlez, je vous entends, avec mes oreilles, mais avec mon corps aussi.
Et ça se situe dans ce qu'on appelle les théories de la cognition incarnée. L'idée, c'est qu'on utilise notre corps, pas juste notre cerveau. Hein. Et c'est pour ça que les intelligences artificielles sont bêtes. Elles n'ont pas de corps. Or, notre corps est essentiel dans notre capacité à apprendre de l'environnement, à apprendre de l'interaction. Et c'est des recherches qu'on est en train de mener.
Et puis, ce cerveau, ces oreilles et ce corps préfèrent parfois les vibrations de certaines personnes plus que d'autres.
Notre oreille, elle est très bien entraînée et aime, en quelque sorte, ce qu'on appelle les résonances qui sont structurés de manière à donner quelque chose d'harmonieux. On préfère l'harmonie à la disharmonie, en règle générale. Et une des hypothèses qui a été formulée, c'est que c'est lié à la fluence perceptive.
La facilité à comprendre.
En fait, c'est beaucoup plus facile pour le système neuronale de représenter des harmoniques que de représenter quelque chose qui est très bruité, comme je le fais maintenant.
C'est flippant, cette voix.
Et qu'on ne va pas aimer ce type de voix, parce qu'elle est granuleuse, elle est complexe à représenter, et du coup, elle est traitée de manière moins aisée par le système.
On aime donc les voix confortables. Et les voix aiguës, ça passe toujours un peu moins bien, non ?
Ça, c'est l'autre aspect, c'est que, et ça, c'est un biais intéressant de nos systèmes auditifs, c'est qu'on va entendre plus fort, on va juger qu'une voix est plus forte si elle est stridente, donc si elle est massivement dans les hautes fréquences, que des voix graves. Donc on est biaisé, hein, quand on fait écouter à des personnes des sons qui ont exactement la même énergie sur le plan physique, hein, pour des sons aigus versus des sons graves, eh bien, ils vont juger les sons aigus plus forts que les sons graves à énergie équivalente. Hein. C'est un biais du système que de surpondérer les aigus. Et cette faculté de notre système, en effet, induit le fait qu'on n'aime pas, on n'apprécie pas beaucoup quand les voix sont très aiguës.
Évidemment, ces préférences de voix et d'harmonie varient selon les cultures et le paysage sonore dans lequel on vit. Mais ce besoin d'harmonie qui nous fait vibrer a sans doute façonné notre cerveau humain pour son goût pour la musique.
Oui, et Rousseau l'a très bien écrit hein, dans ses ouvrages. L'émotion portée par la voix, par exemple une voix joyeuse, une voix triste, elles ont certaines caractéristiques qui sont en quelque sorte instrumentalisées dans la musique pour transmettre ce type d'émotions différentes. Par exemple, une musique qui va avoir une structure rythmique très entraînante, très rapide, très variée, va être jugée plus positivement qu'une musique qui est beaucoup plus lente, beaucoup moins variable. Et c'est exactement comme on produit la voix dans un épisode de joie ou dans un épisode de tristesse. Donc l'idée, même si les émotions musicales ne se résument pas à ça, c'est qu'il y a une sorte de bloc commun sur lequel la musique s'appuie en quelque sorte sur l'émotionnalité vocale.
Et si, avec tout cela, je n'arrive pas à faire un épisode de podcast hautement addictif et qui vous fait vibrer, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Alors il faut faire une voix qui stimule le système dopaminergique au fin fond du cerveau de vos auditrices et auditeurs, qui va induire chez votre interlocuteur ou interlocutrice un sentiment de bien-être positif sans que ça devienne mièvre ou agaçant. Tout le jeu assez délicat entre aussi l'authenticité. Hein, on aime entendre l'authenticité dans la voix, certaines signatures hein, de cette authenticité. Et si on fait trop pour plaire, ça s'entend aussi, comme en musique. Ça, on n'aime pas.
Bon, d'accord. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a fait vibrer, partagez-le sur votre réseau social préféré et abonnez-vous sur Play RTS ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et si vous avez une remarque, écrivez-nous sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où va la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
C'est avec la belle équipe de Microscience que je partage toutes mes émotions. On n'entend pas leur voix, mais leurs bonnes ondes sont bien là. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice soprano. Mathieu Ramsauer, ténor de la réalisation. Jérôme Nussbaum, baryton de l'habillage musical. Et Andrea Glanville, contralto et attaché de production. La mezzo-soprano, c'est moi, Uma Camis, journaliste scientifique. À bientôt.